C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on parle de relooking de marque et pour m'accompagner, je suis avec monsieur Adjane Chélil. Salut Adjane.
Salut Thibaut, ça va, tu vas bien?
Super.
La première semaine d'école de ta fille s'est bien passée?
Écoute, elle aime bien, ça lui plaît, c'est eux, hein, voilà.
Voilà, elle y reste quoi, elle abandonne pas maintenant, c'est cool.
Non, voilà. Il n'y a pas de problème Covid dans l'école du café. Les amis, on parle de relooking de marque. Comment les marques sont parfois amenées à changer d'image pour se sauver, pour sauver leurs fesses. On parle de tout ça. C'est vrai que il y a un certain nombre de marques. Alors moi, je pense à La Redoute, Aigle, Fusal, Pulco, etc. Il arrive que des marques qu'on pensait mortes, enterrées, ringardes, elles réussissent le miracle de revenir sur le devant de la scène. Une sorte de comeback un peu miraculeux qui passe bien souvent par un passage difficile et ça s'appelle le rebranding.
Ouais, il peut y avoir plein de raisons à ça, au rebranding de marque, mais en fait, ça dépend un peu à quel moment si tu la marques dans son histoire. Il y a des moments où il y a des raisons qui font que il faut un peu repartir à zéro, en tout cas faire peut-être un refresh sur toute la communication, sur l'image, même parfois sur la cible, ça peut changer. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent bouger quand on est sur un rebranding de marque.
Ouais, c'est le contrôle R un peu du marketing. Un rebranding, c'est encore mieux qu'un lifting. Hein. C'est une opération, un peu de chirurgie esthétique pour se forger une nouvelle image. Hein. C'est une opération qui est peut-être nécessaire, voire indispensable dans un certain nombre de cas. Alors, on en a listé quelques-uns et c'est peut-être pas exhaustif. Le premier auquel je pense, c'est dans le cas où j'ai besoin de rebondir quand l'image de ma société ou de ma marque, elle a été endommagée. Hein. Par exemple, quand tu as eu un gros scandale qui t'est tombé dessus.
Mauvaise réputation qui démarre.
Ouais, alors là, évidemment, moi, je pense à France Télécom hein, qui devient Orange suite à une sombre vague de suicides chez eux. Voilà, je pense que là, c'est typique du rebranding de gestion de crise.
Effectivement, il y avait un autre exemple hein, comme ça, beaucoup plus international, avec McDo qui passe de tout rouge à tout vert derrière ses arcs jaunes, son M jaune, pour dire qu'il est frais, qu'il y a de la naturalité partout.
Exactement. Il y a aussi quand la marque, elle semble tellement vieillotte qu'on est passé du vintage au ringard. Tu vois, vraiment, quand on est allé
c'est plus vintage, c'est devenu ringard.
Voilà, ouais. Donc là, ça peut valoir le coup à ce moment-là. Et puis, il y a aussi parfois des phénomènes plus business. Hein. Il peut y avoir une fusion, il peut y avoir un développement important.
Une vision internationale aussi qui peut, à un moment donné, faire changer les codes de la marque, parce que des codes qui fonctionnent au niveau national ne fonctionnent pas forcément dans d'autres cultures au niveau international. Donc il faut des choses un petit peu plus, un peu plus larges.
Là, on a un bon exemple, un français avec Brocante Lab, par exemple, qui devient Celency. Rebranding total, ça reste le même business model, c'est les mêmes personnes derrière, sauf que changement de nom, changement de logo, etc. Il y a aussi parfois tout simplement une dichotomie, en tout cas une dissonance entre l'image que vous renvoyez et puis la réalité de ce que vous faites. Ça peut arriver
aussi, c'est vrai. C'est autant de raisons en tout cas qui font qu'à un moment donné il faut repartir un petit peu avec un refresh.
Exactement, et tout ça a des répercussions immédiates hein, sur la manière dont les marques prennent la parole sur les réseaux sociaux. Alors ce matin, on a un certain nombre de, on va dire, de cas d'école hein, comme ça, de rebranding. Est-ce que tu veux commencer, Adjane?
Non, je crois que je vais te laisser commencer. Je crois que c'est toi qui vas commencer.
Eh ben, ça marche. Alors, je vais parler de Defursac. Moi, je trouve que ce qui est intéressant à regarder du côté de Defursac. Hein. Defursac, c'est une marque qui a bientôt 50 ans. Je sais pas si tu vois cette marque de fringues pour hommes. Il y a encore 5 ou 6 ans en arrière, ben, Defursac, c'était cette marque bien old school hein, qui te faisait des costumes de travail ultra classiques, 2 boutons bleu marine et gris anthracite. C'était vraiment la marque du mec qui va travailler à la défense, quoi, hein, tout simplement.
Je vois.
Eh bien, Defursac a vraiment bossé sur son archétype de marque hein, pour répondre à un changement d'époque. C'est une marque qui a vraiment longtemps travaillé son image en s'appuyant sur... Tu sais, j'aime bien cette notion d'archétype de marque. Hein, c'est un peu de la psychologie apportée au marketing. Et ils avaient vraiment cet archétype du meneur autoritaire. C'était vraiment ça, hein, tout à fait dans le contrôle. Homme blanc, CSP+. Un peu comme Mercedes peut bosser sa communication. D'ailleurs, si tu regardes les pubs hein, de Defursac en 2005, par exemple, ben t'as le costume reflet métallisé, les mèches impeccables, toujours deux ou trois beaux gosses, un peu fils à papa. Ça sent la richesse et le pouvoir. C'était vraiment le positionnement de De Fursac. Et puis aussi les grosses ficelles de la virilité, pardon, un peu millésimée années 2000. Sauf que évidemment l'époque a changé et la marque commençait à sérieusement sentir la naphtaline. Hein. Donc ils ont mis le paquet pour changer leur image et dans ce cas-là ils ont fait appel à une trilogie magique, parce que j'ai l'impression qu'il y a souvent cette trilogie magique quant à un rebranding. Il y a une prise de conscience en interne, évidemment il y a un retour aussi de ce que pense le consommateur. Je ne doute pas que De Fursac a sollicité ses clients, et puis il y a le besoin d'un œil neuf, et côté collection l'œil neuf il est arrivé par un designer français qui s'appelle Romain Kremer, qui a vraiment repositionné la marque dans son époque. Il a porter du casual, du cool, et puis aussi un petit côté arty. Et pour ça, il s'est appuyé sur un DA star qui s'appelle Nicolas Santos. Allez regarder Nicolas Santos sur Instagram. Il a apporté une grosse recherche créative autour de la notion de collage. Moi, c'est un traitement que j'aime bien. Et du coup, on est passé de Don Draper de Mad Men à Étienne Dao, un peu, si tu veux, dans le style. Et si vous jetez un coup d'œil au feed Instagram de la marque, eh bien, c'est aujourd'hui à des années-lumière de l'angle historique de De Fursac. C'est plus du tout bureau à la Défense, mais très lifestyle en Camargue, j'ai envie de dire. les piliers de contenu de la marque, ils sont très, très clairs. Hein. Tu as de l'héritage avec des clins d'œil créatifs à l'histoire de la marque. Hein. Rappelons-le, c'est une marque qui a bientôt 50 ans. C'est pas rien. Il y a tout un pendant de contenu autour de l'art avec un post sur 9 mettant en avant une œuvre d'art. Je trouve ça intéressant. Pas un produit, vraiment une œuvre d'art. Alors, tu vas avoir une peinture de Soulages, un tableau de David Hockney, etc. Okay. Et puis, évidemment, la collection, bien sûr, qui est mise en avant et qui a été complètement rafraîchie. Autre chose côté social media, eh bien ils ont inventé De Fursac. Ils sont vraiment là aussi, ils ont rapporté des choses très très cool. Alors dans le désordre, une série de playlists disponibles sur Spotify. Franchement, ça je trouve que c'est une astuce de marque que nous on a déjà utilisée ici,
c'est qui fonctionne super bien,
qui marche très bien, qui permet de nourrir ton ADN de marque et ta culture de marque. Ils ont fait des campagnes d'influence marketing tournées vers un public, à mon avis, 25-30 ans, urbain, cosmopolite. Et puis aussi, il y a ce podcast, hein, on en avait déjà parlé ici, qui s'appelle Mouiller la chemise. Alors, le podcast s'est arrêté.
Et c'est
dommage parce qu'il y avait 10 épisodes et qui sont encore disponibles, passionnants, qui mettent en avant des femmes et des hommes entrepreneurs qui mouillent la chemise. Voilà, d'où le nom. Super intéressant, je trouve, le rebranding de De Fursac.
C'est vrai que c'était un rebranding en profondeur, quoi, là, sur cette marque.
Exactement.
Moi, je vais changer un petit peu d'univers puisque je vais vous parler de Blablacar. Tout le monde connaît Blablacar, le site de covoiturage. C'était un site qui s'appelait à une époque covoiturage.fr et on a tendance à l'oublier. C'était un site qui était vraiment franco-français et la start-up française a été rachetée en 2006 par Frédéric Mazzella qui, quelques années plus tard, a voulu développer la plateforme de covoiturage à l'international dans les autres pays européens. Et là, le nom, bah forcément, c'était un petit peu bloquant. Covoiturage.fr, ça faisait pas trop international. Et c'est là qu'ils ont décidé de se lancer dans un rebranding beaucoup plus profond, puisqu'ils vont changer le nom de la marque. Ils vont l'appeler en Blablacar, blabla plus voiture. On parle et on est en voiture. Classique, simple, Blablacar, ça marche de partout. Ouais, ça marche bon, dans tous les pays, c'est universel. Mais ils ne se sont pas arrêtés là, puisque ça, c'était en 2013 que l'entreprise française se transforme en Blablacar et change forcément un petit peu son logo avec un code couleur qui reste à peu près le même. Ils ont juste laissé tomber le jaune et gardé le rouge, bleu, vert. Et puis, ils ont changé en 2019. Et là, en 2019, ils ont carrément tout changé, modernisé le logo, puisque maintenant, il n'y a plus que le simple Blablacar en noir. Il n'y a plus les couleurs et ils ont gardé juste deux petits guillemets qu'ils ont mis au-dessus et qu'ils ont gardé vraiment en logo et qu'ils ont développé après sur toutes leurs plateformes social media, qu'on retrouve sur toutes leurs photos de profil, qu'on retrouve dans les créations qu'ils peuvent avoir. Et aujourd'hui, Blablacar, c'est quand même 4,7 millions de personnes qui sont fans sur Facebook avec une DA même quand on va voir leur Facebook qui est beaucoup plus moderne, beaucoup plus pro, avec des couleurs qui ont un petit peu changé. On est moins sur des couleurs un peu flashy, on est sur des couleurs plus un peu plus travaillées, des créations a plus travaillé. Donc il y a eu vraiment un travail de rebranding qui a été fait. Je vous invite quand même à aller jeter un coup d'œil à leur Facebook. On retrouve à la fois là-dessus maintenant toute une partie photo.
Facebook
avec...
énorme, hein. Il y a une audience faramineuse, je sais plus, ça
4,7 millions, ouais. ce que je te disais. On a des photos lifestyle qui sont très basées sur l'humain, et puis après voilà, on a toutes ces créas qui sont complètement sorties de ce qu'ils faisaient avant. En plus, ils ont eu un business qui s'est un petit peu réorienté, puisqu'ils ont aussi maintenant le bus dans Blablacar. Il n'y a pas que le covoiturage. Donc ça leur a permis vraiment de en fait, en changeant de nom et en changeant de DA, ils ont réussi à pouvoir s'adapter après à toutes les nouveautés dont l'entreprise a fait face sur les années qu'on suivit, quoi. C'était assez intéressant.
Intéressant aussi parce qu'on sent que c'est une marque qui met vraiment son why au cœur de ce qu'ils font, et on peut presque le réécrire, le why, hein. C'est vraiment rapprocher les gens. Il y a évidemment la notion de transport, mais il y a aussi le rapprochement, créer du lien dans ton transport, d'où les guillemets, d'où le blabla, d'où le conversationnel. Et on le voit aussi dans leur stratégie social media. Il y a des groupes Facebook, je sais pas s'ils sont à l'initiative de la marque, tu as des groupes Facebook où tu vas avoir 15-20 000 personnes Blablacar, et on sent qu'il y a vraiment une atmosphère d'échange et de création de liens autour de cette marque. Intéressant. Allez, moi je voulais dire deux mots sur Maison 123. Maison 123, pour moi, c'est vraiment la transformation, le rebranding pour mieux se réinventer. Alors, est-ce que tu te souviens de cette marque 1-2-3?
Je vois de loin.
Voilà, une marque qui a été créée en 1983, une marque de vêtements pour femmes, un peu, allez, je m'excuse le terme, un peu mémère, hein, pas forcément très branchée. En tout cas, c'est comme ça que c'était devenu. Je regarde, j'ai raison ou pas? Je regarde juste là Camille, ce qu'elle en pense. Elle est assez d'accord. Eh bien, 1-2-3 s'est complètement réinventé, a même carrément changé de nom pour devenir Maison 123. Et à quoi ça sert de changer de nom? Est-ce que c'est utile? Eh bien, ça permet de changer tout ou presque, hein. En tout cas, c'est ce qu'a fait Maison 123. Concrètement, nouvelle collection avec un positionnement beaucoup plus transgénérationnel, hein, donc angle femme active branchée. Et à ce titre, la marque, elle a vraiment redesigné aussi ses boutiques. Ça, je trouve intéressant. Sa forme, alors ils ont rebondi sur le terme maison, donc t'as tout ce côté un peu maison avec des canapés, des coins salons, des bibliothèques, etc. Et même dans certaines boutiques, t'as des espaces de coworking. Je trouve ça assez fou, hein. Ils ont vraiment poussé le délire jusqu'au bout. Et puis le changement de nom, 1-2-3 vers Maison 123, c'était aussi l'occasion de rapporter un nouveau brand purpose, hein, tourné vers l'éco-responsabilité. Ils ont vraiment saisi cette occasion pour partir sur rapporter là aussi leur why, leur pourquoi de marque. Et du coup, je suis tombé sur une interview de Jean-Claude Mathias, qui est le directeur marketing de la marque, qui explique, eh bien, l'industrie de la mode, elle compte parmi les plus grands pollueurs au monde, etc. Bon, le laïus qu'on connaît. Et il dit, il est temps que qu'on prenne en main les choses et qu'on pense durable. Et du coup, si on plonge sur leur compte Instagram, on retrouve notamment ce sujet en fil rouge dans le contenu de la marque, en highlight story, t'as pas mal de choses. Il y a notamment des défis éco-citoyens. Je trouve ça assez culotté, hein, de la part d'une marque d'aller solliciter ses audiences et de leur demander de s'engager à titre individuel autour du ramassage des déchets sur la plage, puisque c'est ça qu'on trouve aujourd'hui dans leur highlight story. Et puis la marque a lancé aussi, toujours dans cet engagement vers les éco-responsabilités, pardon, une plateforme de vide-dressing. En gros, tu sais, t'as acheté un produit Maison 123 et puis tu peux le revendre à quelqu'un d'autre. Du coup, ton produit a une durée de vie plus longue. Voilà, donc ça, ils en parlent évidemment sur leurs réseaux sociaux. Bel exemple de rebranding.
Effectivement. Je vais vous parler moi maintenant d'une marque qui est très très connue, qui était déjà connue quand elle était assez ringarde et puis qui maintenant redevient un petit peu plus à la mode. C'est toutes les marques issues de la maison Decathlon, en fait. Quechua, Kipsta, Kalenji. Je me souviens, moi, quand j'étais plus jeune, quand on avait 14, même 10, 15 ans par là, moi je joue au foot par exemple, personne voulait des chaussures Kipsta, on voulait pas non plus de la polaire Quechua ou les chaussettes Kalenji, franchement c'était vraiment la honte. au fond, quand on y pense,
je me projette là, je te vois,
je veux pas ça, tu sais, c'était la honte parce que c'était pas cher et qu'on avait pas envie de montrer qu'on voulait pas être pauvre, on voulait des Nike, on voulait des Adidas, on voulait des Reebok à la limite, mais pas des marques Decathlon. Et depuis, la marque Decathlon, elle a pris un énorme virage, portée notamment notamment par la culture urbaine et hip-hop qui est devenue une culture presque dominante hein, en France, en tout cas en termes de musique, c'est ce qui se vend le plus aujourd'hui. Et toute la communication de la marque, eh ben, elle s'est adaptée, elle a changé. Et les ambassadeurs, bah, c'est les rappeurs les plus populaires de France. C'est Jul qui manque jamais une occasion de porter une petite quechua dans un de ses clips, notamment une très belle doudoune dans le clip En Y dernièrement. SCH qui est souvent en polaire de la marque sur Instagram. Zola qui débarque en interview Combini avec un bonnet Kalenji. Et bah, la marque, elle va dans ce sens. La marque, elle a joué le jeu. Elle s'est pas fermée à ce monde-là. Elle a vu que c'était une belle opportunité.
Parce que d'autres l'ont fait. D'autres l'ont fait. On pense à Lacoste.
Par exemple, qui a refusé certains rappeurs.
Qui avait vraiment refusé le fait de se faire happer par la culture hip-hop. Hein.
Et Decathlon, bah, eux, ils y sont allés. Et maintenant, bah, ils partagent carrément sur les réseaux sociaux. Par exemple, le morceau de Zidane de 13, qui s'appelle Zidane, hein, de 13 blocs du groupe 13 blocs, qui cite la marque toujours en quechua. Et ça va même plus loin. Parce que sur Twitter, la marque quechua, elle a carrément utilisé en bio les paroles d'un refrain qui répétait j'ai ma quechua, j'ai ma quechua, j'ai ma quechua. Et ils le récupèrent et ils le mettent dans leur bio directement. Decathlon et quechua ont maintenant toute une ligne éditoriale autour du rap, autour de la musique urbaine, avec des citations de rappeurs qui parlent de la marque. Ou encore, moi j'ai vu il n'y a pas longtemps là, un super post avec une photo de Jul avec un sac quechua devant lui en wording Jul, premier randonneur de France. J'ai trouvé ça très drôle.
C'est marrant. Ouais.
Et toute la com, voilà, elle a changé. C'est un vrai relooking dans le sens où maintenant les photos des produits en mode lifestyle, bah, ils sont plus que dans un camping ou en train de faire de la pêche le dimanche matin. Il y en a encore un petit peu, rassurez-vous. Mais on retrouve des photos bah, dans des milieux urbains et qui plaisent à une autre
cible. Est-ce qu'il y a de la chaise de camping pliable en toile?
Il y a de la chaise pliante. Il y a de la chaise pliante, mais plus forcément au bord d'une petite rivière. Il y en a aussi sur dans un milieu ultra goudronné, je dirais. Et la marque Decathlon, eh bah, elle s'est adaptée à tout ça tout en restant bah, fidèle aussi à ses valeurs. Hein, là, qui est tolérante, accessible, ouverte. La marque, elle s'est modernisée, elle est devenue juste plus cool. Et c'est ça aussi un rebranding réussi.
Ouais, et bah là, c'est un cas d'école, hein, effectivement, quechua. Allez, un dernier petit mot du côté de la food cette fois-ci, ou plutôt du drink, excusez-moi le terme, l'anglicisme, avec Pulco. Hein, Pulco, pour moi, c'est il y a un sujet autour de... Parfois, tu as une histoire dans laquelle tu es empêtré et puis tu as besoin de te réinventer pour en sortir, peut-être aussi pour élargir ta gamme, élargir ton marché. Voilà, il y a des marques comme ça qui ont un historique tellement fort et ça leur colle à la peau et c'est vraiment difficile d'en sortir. Si je te dis il fait trop chaud pour travailler, forcément, et ben forcément tu penses à Pulco avec un gars dans un hamac, ouais. Hein, ça c'est normal. C'est inscrit au panthéon de notre mémoire collective, je pense. C'est un héritage qui peut être vécu comme un fardeau hein, pour une marque qui cherche à rejeunir son image et à élargir son marché à de nouveaux consommateurs. Hein, Pulco, c'est vraiment pour moi la boisson que me faisait ma grand-mère l'été quand il fait chaud, tu vois, il fait trop chaud pour travailler, ça tombe bien, c'est vacances scolaires. J'aime bien le Pulco, mais je l'aime comme ça, 2 mois par an. Et ça, c'est un problème, forcément, quand
tu dois
en vendre toute l'année. Alors, pendant des années, Pulco a travaillé l'angle de la paresse. Hein, c'était vraiment ça, leur angle DA. Une vraie signature de moins en moins compatible aussi avec sa recherche de nouveaux clients, plus jeunes, plus actifs, plus sportifs peut-être aussi. Et du coup, en 2009, Pulco a enterré pour de bon hein, ses prises de parole sur la paresse et maintenant travaille quelque chose autour de la naturalité et de la transparence. C'est plutôt bien amené avec et pour le coup hein, ça a été fastidieux hein.
Ah ouais.
Ouais. Ils ont d'abord fait des campagnes. Ils ont cherché, continué à essayer d'exploiter ce thème de paresse. Ils se sont pris des pains. Hein. Ils ont eu des campagnes qui ont vraiment fait des flops pour ensuite aller sur la naturalité, la transparence avec une nouvelle plateforme de marque. Et là, on pense forcément à l'épisode qu'on avait fait avec Pauline Lénieux autour de la plateforme de marque. Allez écouter cet épisode. Pulco, une plateforme de marque autour de la vérité citron. Hein. C'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Et la marque, maintenant, elle se définit comme une boisson réhydratante, qui n'a rien à cacher. Pas déshydratante, réhydratante. Et du coup, elle a mis ses ingrédients sur la sellette. C'est simple, c'est de l'eau, du citron. Donc, c'est vrai que c'est une promesse, finalement, qui est totalement dans l'air du temps, la simplicité de la recette. Et du coup, je vous invite à jeter un petit coup d'œil hein, sur leur très joli compte Instagram de la marque. Vous allez voir qu'on est très, très loin de l'univers de la paresse, de l'univers de la sieste. À l'ombre, avec le Tour de France en arrière-fond, on a basculé clairement dans un truc où tu as envie plutôt de faire du trampoline dans le jardin. Voilà, c'est frais, c'est jeune, ça peps. j'adore ça, c'est aller voir sur, je me souviens plus, vous regarderez sur Instagram, hein, plus le coup.
Ouais, directement. Mais voilà, on a essayé de vous faire une petite liste non exhaustive de quelques marques qui ont connu un vrai rebranding, un vrai relooking, dans un peu de manière globale, mais axé sur les réseaux sociaux aussi. Si vous avez d'autres idées de marques comme ça qu'on aurait pas vu, qu'on aurait laissé passer et qui sont en plein là-dedans, n'hésitez pas à venir en parler avec nous directement sur les réseaux sociaux, @supernatif sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok ou même Pinterest. Et puis, vous écoutez ce podcast sur une plateforme de podcast. Alors, n'hésitez pas à nous laisser une petite note ou un commentaire et surtout, parlez-en autour de vous.
Merci à vous tous. On vous souhaite un très bon week-end.
À lundi.
On vous donne rendez-vous dès lundi. Salut.
Ciao.